Chapitre 28. Le blizzard s'est dissipé. C'est tout juste si du ciel bas et gris s'échappe un crachin de flocons cristallins. Le vent est tombé, mais son haleine reste aussi froide que celle d'un mammouth congelé dans la glace de l'Arctique. Les gyrophares des véhicules de police font danser des lueurs colorées sur le paysage immaculé, et chacun des véhicules qui s'immobilise à la vue du barrage redonne espoir à Wainwright Hollister de mettre la main sur ce traître de Thomas Buckle. Les deux snowcats bloquent la circulation en aval, de façon que tous les véhicules susceptibles d'abriter le réalisateur puissent être fouillés. Hollister est accompagné de deux réchauds, et tous les adjoints du shérif présents sur le barrage sont démodifiés. Dès les premiers jours de la Révolution, Hollister a fait de ce comté son fief. Il a inondé la région de dizaines de millions, bien sûr. Il a surtout inoculé des mécanismes de contrôle à tous les flics locaux ou fédéraux, ainsi qu'aux élus du CRU. Il a suffi de prononcer une simple question. Voyez-vous la reine rouge ? Pour que les policiers du barrage lui obéissent au doigt et à l'œil. Au besoin, il leur donnera l'ordre d'oublier ce qu'ils ont vu, afin que personne ne soit au courant de ce qui s'est passé ici au cas où l'opération tournerait mal. Hollister, entouré d'un adjoint du shérif en uniforme et d'un réchaud, interroge personnellement tous les conducteurs, pendant qu'un autre flic fouille les coffres des voitures, l'arrière des camionnettes et les remorques des camions. Les véhicules sont ensuite libérés les uns après les autres à mesure que les contrôles se succèdent, jusqu'à la survenue de deux incidents. Un Mercury Mountaineer vient de franchir le barrage lorsque se présente une Porsche Cayenne transportant deux passagers, le conducteur et sa passagère. L'homme baisse sa vitre dans un ronronnement électrique.
« À quoi rime tout ce cirque, monsieur l'agent ?»
demande le type à Hollister alors que ce dernier ne porte pas d'uniforme. Voyant que Tom Buckle ne se trouve pas à l'intérieur de la Porsche, Hollister s'apprête à demander au conducteur s'il n'a pas vu un homme en pantalon de ski et chemise de flanelle monter à bord d'un autre véhicule, lorsqu'il remarque que la passagère donne le sein au bébé qu'elle tient dans les bras.
« Vous ne voyez pas qu'il y a un bébé ? » s'agace-t-elle. « Le vent qui passe par la fenêtre est glacial !»
Hollister la dévisage et la reconnaît instantanément. Il s'agit de sa mère, celle-là même qui a tenté par deux fois de le priver d'une partie de son héritage, en tombant enceinte avant de demander le divorce, avec l'intention d'emmener le petit Wainwright avec elle dans son taudis. Il lit dans les yeux de la passagère la même arrogance, le même mépris accusateur. Hollister pose son regard sur l'enfant. Jusqu'alors, il pensait que les bébés se ressemblaient tous, mais il croit voir cette fois son frère, Diedrich Deodatus, qu'il a étouffé il y a si longtemps sous un oreiller. Une peur inconnue le saisit, un sentiment d'angoisse qui lui laisse deviner la survenue prochaine d'un drame atroce. La femme lui parle à nouveau, mais loin d'entendre ses paroles, il comprend.
Vous irez pourrir en enfer avec Madame Ripley.
Une référence à la gouvernante qui a été sa complice autrefois. Hollister a conscience que l'occupante de la Porsche n'est pas mère, bien qu'elle lui ressemble. Elle est beaucoup trop jeune. Quant à Diedrich Deodatus, il est mort et enterré, réduit à l'état de squelette dans son cercueil. Le milliardaire étouffe un cri angoissé et fait signe à la Porsche de passer. Il attribue cette crise non pas au stress engendré par sa crainte de l'échec, mais aux derniers effets du produit hallucinogène que Thomas Buckle a glissé dans sa boisson ou sa nourriture. Six véhicules plus tard, un 4x4 Mercedes blanc s'arrête à son tour à sa hauteur, provoquant un incident plus étrange encore que le précédent.